Joyeuse Pentecôte à vous. Alors, s'agissant de Pentecôte, c'est vrai que je ne sais pas, dans notre communauté, si on a l'habitude d'évoquer ces choses-là. Et vous savez, dans d'autres communautés, on parle d'années liturgiques et l'année rythmée par ces événements de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, rythmée par les événements de la vie de Jésus, qui sont un petit peu une façon pédagogique de nous renseigner sur ce qui a eu et aussi de construire notre foi autour de ça. Et je trouve que c'est bien pédagogique, c'est formateur, ça édifie. Et on met l'accent souvent sur Noël, on met l'accent sur Pâques, mais pas forcément sur la Pentecôte ou même l'Ascension, tiens. L'ascension, la montée de Jésus au ciel, qu'est-ce que ça veut dire et quelle implication pour nous? Alors bien sûr, la Pentecôte, oui, on voit, hein, lorsqu'on lit le livre des Actes, c'est pas juste le Saint-Esprit qui descend parce que Dieu l'a promis, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, comme nous l'a rappelé ce matin notre frère Olivier. Il n'est pas là que juste pour être là. Il est là pour nous sceller, premièrement, pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Mais il est aussi là pour nous revêtir de puissance, pour aller faire ce que Dieu nous demande de faire. Sans le Saint-Esprit, pas possible de faire cette œuvre. Néanmoins, je ne vais même pas parler de Pentecôte ce matin, mais de transmission. Transmission de la foi à nos enfants. Dans une revue de théologie que j'ai consultée récemment, un auteur écrivait que la société contemporaine sécularisée, c'est-à-dire une société qui connaît depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, hein, une séparation entre le domaine religieux et le domaine public, avec l'abandon par l'Église de certaines de ses prérogatives dans la société, bien, cette société-là, qui est aussi marquée par l'individualisme, et avec un rapport au temps un petit peu escamoté, hein. On veut tout de suite et vite. Eh bien, cette société-là, elle semble connaître une crise de la transmission. Dernièrement, on écoutait, hein, lorsqu'il y a eu les émeutes en France, il y a un certain ministre qui a dit « Où sont les parents ?» Si on a des enfants de 13-14 ans dans les rues, à balancer des cocktails Molotov en direction de la police, où sont leurs parents? Et donc, dans ce contexte-là, se pose la question, quel parent chrétien, lequel d'entre nous, ayant des enfants, n'aimerait pas voir nos enfants passer l'éternité avec Dieu et avec nous? Tu vois Hugues qui fait... Il parle beaucoup avec ses sourcils. Mais paradoxalement, cependant, hein, la plupart d'entre nous, nous investissons beaucoup sur l'éducation, sur la formation de nos enfants. Nous investissons en eux pour qu'ils aient un bon travail, une belle carrière, qu'ils puissent réussir sur le plan humain. Or, nous le savons très bien, ces succès-là sont momentanés, en tout cas pour le temps que nous sommes sur Terre. Et l'Écriture qui nous dit, en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, que c'est seulement ce qui est fait pour Christ qui va durer. Vous voyez le paradoxe ? La question, c'est combien investissons-nous dans cette éternité-là, dans ce qui doit durer pour l'éternité. Pourtant, nous faisons maximum nos efforts. Moi aussi, hein, moi aussi, j'aimerais que ma fille ou mes filles s'en sortent très bien à l'école et puis aient un bon boulot demain et qu'ils puissent avoir une bonne retraite demain. Mais combien d'entre nous voudront voir nos enfants au ciel, qu'est-ce que nous faisons pour ça? Combien d'investissements injectons-nous dans leur vie pour le royaume de Dieu? Vous savez, j'ai réalisé que les enfants, ils nous sont prêtés. Je ne sais pas si vous avez cette vision des enfants. Ils nous sont prêtés, les enfants. Oui, on dit, nous, mes enfants. Ils nous sont prêtés. Et je me prépare déjà psychologiquement au jour où ma fille me dira, bye bye papa, je vais faire ma vie. Mais il y a des enjeux à cette transmission que nous devons vis-à-vis de nos enfants. Selon certaines statistiques, qui datent déjà depuis 10 ans, 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques, des gens qui y recherchent. Et puis on a aussi seulement 5% des jeunes entre 15 et 20 ans considèrent que la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie. Seulement 5% ont cette vision des choses. Quelles sont les aspirations de nos enfants? Sont-ils passionnés par Jésus-Christ? Est-ce que le matin, le dimanche matin, ils vous réveillent pour vous dire « Il y a le culte des enfants ce matin, je veux y aller. » Bon, nous, en Guadeloupe, le culte commençait par ça. Il y avait un temps d'études, 9h à 10h. Tout le monde allait dans ses classes pour un temps d'études. Pendant les premières années de la vie, les parents que nous sommes avons la responsabilité de développer la piété de nos enfants, en sachant que plus tard, ça sera plus difficile. C'est plus compliqué de dire à un ado de 16 ans, on va à l'église, qu'un petit de 6 ans, on va à l'église. La réponse n'est pas la même, bien souvent. Ah non, je suis fatigué, il faut rester dormir. Et aux yeux de Jésus, les enfants sont très importants. Nous le savons. Il prend même ces enfants-là en exemple en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, ou si vous ne devenez pas comme les plus petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18. Les enfants nous sont prêtés. Et donc, pour le temps qu'ils sont avec nous, nous sommes chargés, nous avons une responsabilité de les éduquer dans la voie la meilleure, semble-t-il. Mais nous avons aussi des limites en tant que parents responsables. Les limites, quelles sont-elles? Il ne nous appartient pas, en tant que parents, de convertir nos enfants. J'espère que vous le savez. Il n'appartient pas aux parents chrétiens de convertir leurs enfants. C'est Dieu qui transforme les cœurs. C'est pas nous. C'est pas nous les parents. Notre responsabilité est plutôt de les orienter, de servir de poteau indicateur pour les orienter vers le Seigneur. Et ça se fait par toutes sortes de moyens, mais surtout par nos comportements et la vie que nous menons. Plus tard, bien sûr, nous espérons qu'ils décident de suivre le même chemin. Et nous soutenons ce travail-là par la prière, par l'amour que nous leur donnons. Parce que vous le savez bien, vous avez essayé, vous êtes parents comme moi pour certains, transmettre la foi, c'est difficile. C'est pas évident. Et nous devions influencer et pas forcer. Notre responsabilité est aussi de suivre des principes bibliques si nous voulons enseigner nos enfants. Dans une famille chrétienne, tous les membres... Alors, par exemple, chez moi, hein, avec mes parents qui ont été chrétiens, qui sont chrétiens, on avait intérêt à filer droit. Et le mercredi, nous, c'était le mardi soir, on était 6 enfants, il n'y avait pas un qui avait le toupet de dire à papa ou à maman, j'ai des devoirs, je dois rester à la maison. Ça, ils n'entendaient pas ça. Tu avais tout le loisir pendant la journée avant pour faire tes devoirs. Là, c'est, on va à l'étude biblique, on va à la réunion de prière. On a grandi comme ça. Ça nous a marqués. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à rester à la maison quand il y a réunion de prière et étude biblique. Bon, vous me direz aujourd'hui, je suis pasteur. Oui, je suis obligé d'être là. Mais avant, j'y étais pas. Vous voyez, nous avons ce devoir de responsabilité. Je vais vous inviter à prendre un passage avec moi. En Deutéronome, chapitre 6. Vous connaissez sûrement ce texte-là. Un livre qui contient, en tout cas ce texte-là, qui contient des instructions très utiles sur la transmission de la foi dans le cadre de la famille. Deutéronome 6, précisément versets 4 à 9, qui seront notre texte, mais je vais commencer depuis le verset 1. Deutéronome 6, 1 à 9. Vous y êtes. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de la vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, et te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Jusque-là, notre lecture. Au moment d'entrer dans la terre promise, Moïse rappelle les lois données par le Seigneur dans le désert. Et juste avant, il répète les 10 commandements que le peuple accepte, bien sûr, avec zèle en plus, enthousiasme. Il dit oui à Moïse, nous ferons tout ce que tu nous demandes ou que l'Éternel nous demande. Puis il les interpelle. Écoute Israël. Et ce verset-là, c'est un texte fondamental hein, chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel ou alors d'autres versions, est un. Ou alors est unique. Un texte qui sonne comme une confession de foi pour les chrétiens, en tout cas pour les juifs avant nous, pour les israélites, et aujourd'hui ça peut l'être pour nous. Et ce passage débute avec ce écoute, écoute, qui sonne comme un commandement. Avant d'enseigner, il faut apprendre. avant de parler, il faut écouter. On ne communique que ce qu'on connaît vraiment. Et donc le principe est le même avec Dieu. Écoute, ô Israël. Le verset 5 enchaîne avec ce que Jésus reconnaîtra comme le plus grand des commandements. Matthieu chapitre 22, quand il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Habituellement, dans l'Écriture, quand on voit le mot « cœur », bon, il ne s'agit pas de l'organe, bien sûr, plutôt un mot qui représente l'intériorité de l'homme au sens large. Il comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Quant au mot « âme », l'âme, on dit en général que c'est plutôt le siège des émotions, des sentiments. Et puis la force implique toutes les sources physiques ou mentales qui nous concernent. Et le but de notre vie en Christ est d'aimer Dieu en priorité et de développer cet amour plutôt que l'amour de nous-mêmes ou l'amour pour nos enfants, plutôt l'amour de l'argent, l'amour de la gloire. L'amour de Dieu. Aimer Dieu implique de le chercher, de le connaître, de cultiver une intimité avec lui. Ça, c'est la vie du disciple. De vivre ses lois, ses commandements, de vivre concrètement sous son aile, sous sa protection. Notre vie doit témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, de ce que nous prêchons quotidiennement. Vous connaissez ce célèbre chant de Barry White, « Practice what you preach ». Enfin, faites ce que vous prêchez. Pour communiquer cette passion, nous devons y consacrer de l'énergie, du temps, en parler, non pas comme une contrainte, mais comme un privilège qui nous est donné. Montrer que nous aimons Dieu. Et vous savez quoi? Tout ça, nos enfants le voient. Si nous avons cet amour pour Dieu, si nous avons cet empressement d'aller vers Dieu, pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Les enfants, ils voient. Ça fonctionne par imitation, les enfants. Le même passage de Théronome continue en disant ceci, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Le Nouveau Testament confirme que la parole de Christ demeure dans notre cœur, dans toute sa richesse. Et il dit ceci en Colossiens chapitre 3, « Quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous faites, que ce soit en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Si la parole demeure en nous, notre vie sera transformée. Et ça orientera la vie aussi de nos enfants. Deuxième recette, c'est donc aimer la parole. Bon, je ne vais pas oser vous poser la question, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Répondez-y pour vous-même. Et donc, avant de chercher à transmettre la foi, il faut avant tout vivre cette foi. Bon nombre d'enfants ont refusé d'embrasser la foi parce qu'ils ont vu dans leurs parents, comme dans l'Église, à notre honte, une hypocrisie totale, monumentale. Mon épouse lisait aussi un livre, j'ai eu le temps de lire quelques lignes de ce genre de livre, de témoignages d'enfants, de pasteurs qui ont préféré quitter l'Église parce que ce que disait papa derrière la chaire et ce qui était vécu à la maison, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Et des familles pastorales parfois vivent comme ça des catastrophes parce qu'on ne vit pas la parole, on dit. On fait comme le médecin qui dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous voyez tous ces médecins qui dès qu'ils ont un moment, ils sortent fumer à l'hôpital, et puis ils vous disent, faut pas fumer, fumer tue, ça donne des cancers. Mais dès qu'ils ont 5 minutes, ils filent dehors pour fumer. Moi, je ne te veux pas comme médecin, en tout cas. Verset 7 plutôt. Tu les inculqueras à tes enfants, ces enseignements. Alors, pour répondre à ton le verbe inculquer ici a une connotation en français un peu différente du terme hébreu. En français, c'est presque l'équivalent du tu forceras tes enfants. C'est ce qu'on entend en français. Tu forceras tes enfants. Alors que le verbe hébreu signifie littéralement aiguiser. Aiguiser. Et donc ce terme-là peut évoquer un enseignement pointu. Un enseignement correct. Un enseignement précis, opportun. Qui met le doigt sur le vrai problème. Qui va à la racine des choses. Qui perce les abcès. Il ne voit pas les choses uniquement à la surface, qui donne un sens critique aussi aux enfants. Nous, on a établi une règle à la maison. Les enfants, vous verrez, Jesse, Lydie, parfois nos parents étaient un petit peu étonnés que nos enfants nous répondent. Mais ils ont la liberté de nous répondre, bien sûr dans le respect qui nous est dû en tant que parents. Mais ils ont cette liberté-là de s'exprimer, de donner leur avis, de dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas contents, toutes ces choses dont moi, personnellement, j'ai été privé. On n'avait pas intérêt à dire que tu n'étais pas d'accord avec tes parents. Même s'ils feront quand même ce que tu demandes, mais ils ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est un droit humain. D'accord. Parce que derrière, il y a un objectif. D'accord. On leur inculque quelque chose. Demain, Dieu voulant, je voudrais que mes enfants, lorsqu'ils seront confrontés au monde extérieur et que quelques quidam viendront leur dire, tu sais, dans ta Bible, là, et qu'ils soient capables de répondre à ça, qu'ils soient capables de se défendre. Mais si à la maison, je leur demande de se taire, même parce que leur avis ne me plaît pas, qu'est-ce que ça donnera à l'extérieur demain? Tu enseigneras la foi à tes enfants, en formant leurs pensées, en leur donnant les armes, les outils pour cela. Ce commandement s'adresse aux deux parents, pas uniquement au papa, pas uniquement à la maman. Bien souvent, les papas démissionnent et laissent toute l'éducation à la maman. Mais Proverbes chapitre 6, verset 20 nous dit ceci, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et rajoute derrière et ne rejette pas l'enseignement de ta maman. » Vous savez, les deux mots, c'est pareil, ce sont pareils. Préceptes et enseignement, c'est la même chose. Ça veut dire que les deux parents participent à l'éducation de leurs enfants. Le père et la mère ont ce devoir d'enseignement. Et donc, aucun parent, surtout un parent chrétien, ne peut ou ne doit démissionner de sa responsabilité sous prétexte que l'autre parent ne fait pas son travail, par exemple, ou n'est pas intéressé ou n'est pas motivé. Moi, je suis parent chrétien et je sais ce que je dois faire. Je sais ma responsabilité vis-à-vis de mon enfant et je fais ce qu'il faut pour que demain, je n'ai pas à mettre la main sur la tête, comme on dit en Guadeloupe, parce que mon enfant aura vrillé. Cependant, le père a une responsabilité générale. Messieurs les pères, la parole de Dieu nous donne cette responsabilité générale. Et la question c'est, comment faisons-nous, père, pour enseigner ou pour inculquer façon hébreu? Pas obligé, mais comment inculquer, transmettre la foi à nos enfants. Je ne sais pas si vous avez, en tant que parent, institué un culte familial avec vos enfants. Nous, on se bat à la maison avec ça. On commence, ça dure 2-3 jours, on arrête, ça reprend, on arrête très longtemps, puis on fait des tentatives, on en parle, il faudrait qu'on recommence. Mais c'est pas régulier. Je sais que dans certaines familles, c'est quoi? Ouais, il faut. Ça, c'est une bonne chose à établir dans le foyer. Un culte familial, on se réunit ensemble autour de la parole de Dieu, on donne goût à nos enfants d'une proximité avec Dieu, un dialogue avec Dieu. On leur montre que nous aussi, on a besoin de la parole de Dieu pour être conduits par Dieu. Et donc, eux aussi, et parfois, je soupçonne à certains parents d'éviter ces choses-là parce que parfois, ils ne savent pas répondre aux questions des enfants. Et vous savez, moi, j'aimais bien, j'étais moniteur d'école de dimanche quand j'étais plus jeune et j'avais pris une classe d'âge qui posait des questions très pertinentes malgré leur jeune âge. Et des fois, j'étais obligé de leur dire, dimanche prochain, je reviendrai avec une réponse pour ta question. Parce qu'il fallait que j'aille chercher. Ça pose des questions pointues, les enfants. Peut-être vous vous dites, c'est quand même du bourrage de crâne. Hein? Parfois, ils n'ont pas envie. Parfois, c'est compliqué. Mais soyez persuadés que, d'une part, cela peut être un moment passionnant avec les enfants, en tout cas pour la famille. Et d'autre part, ben, si on ne leur remplit pas la tête avec la parole de Dieu, soyez-en sûrs qu'à l'extérieur, leurs têtes vont être remplies avec autre chose. Hein. On aura bien du mal à faire le tri plus tard. Et puis on demandera, mais à quel moment il a appris ça? Où est-ce qu'il a appris ça? Le même passage ajoute, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Partie B du verset 7 de Deutéronome 6. Est-ce à dire que Dieu veut que nous soyons des moulins à parole? Pas du tout. Mais il s'agit plutôt de saisir toutes les opportunités de la vie pour donner ou pour tirer des leçons spirituelles. Dernièrement, sur la route, il y avait un joli arc-en-ciel. Puis les enfants, l'arc-en-ciel! Tout de suite, la question qui vient derrière. Vous savez pourquoi il y a les arc-en-ciel? Et bim, on rebondit sur l'histoire de Noé. C'est des moyens comme ça qu'il faut saisir pour enseigner la foi aux enfants. À leur niveau, bien sûr, différent, mais il faut leur enseigner. Demain, vous aurez une fille qui a 15 ans, qui vous posera des questions, sur les garçons, par exemple. Vous répondez quoi? Papa, il y a un garçon qui me tourne autour, ou qui m'intéresse. Vous lui dites quoi? Ah non, c'est pas pour toi. C'est pas de ton âge. Est-ce que c'est la seule réponse qu'on peut donner? C'est pas de ton âge. Tu verras ça plus tard. Mes parents, ils se sont rencontrés. J'avais 15-16 ans, vous savez. Et là, ils ont 60, je sais pas quoi, ils sont ensemble encore. Mon épouse, je l'ai rencontrée au lycée. J'avais 18 ans, elle avait 17 ans. On est mariés aujourd'hui. Est-ce que c'est la seule réponse qu'on peut donner à un enfant qui nous pose la question? Alors peut-être que vous vous dites que mes enfants, ben, ils veulent pas de tout ça, hein. Rappelez-vous que C'est pas nous qui convertissons nos enfants. Seul Dieu peut faire ça. Et aussi qu'il ne faut pas confondre respect de la loi familiale et adhésion personnelle à la foi. On a déjà eu une discussion avec mon épouse. Le cas où nos filles, malgré tout ce qu'on aura fait pour les intéresser à la foi, ils grandissent et puis jamais ils ne se tournent vers Dieu, en tout cas tant qu'ils sont sous notre toit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère la situation? 15 ans, 16 ans, ado, 17 ans, 18 ans, comment on gère? Ma réponse a été de dire, écoute, tant qu'elles sont respectueuses chez nous, pas de souci. Mais le jour où ça part en sucette, à tes 18 ans, je te dis, chérie, je t'aime beaucoup. Avec l'accent, je t'aime beaucoup. Mais pour la paix du foyer, de mon foyer, pour ma paix de l'esprit, je vais te trouver un petit appartement où tu vas loger et tu pourras vivre ta vie comme tu veux. Si tu ne veux pas vivre selon nos règles à nous à la maison. Et je te dis ça avec tout l'amour que j'ai pour toi. Si certains de nos enfants ne sont pas convertis, on ne peut pas leur demander de vivre une vie chrétienne, non plus. Et ça, je vois ça souvent. Même dans les églises, hein. On a des personnes qui nous visitent, bon, ils sont là 2 mois, 3 mois, et puis on estime qu'ils auraient déjà changé d'attitude, alors qu'ils ne sont pas convertis, ils viennent tout simplement. Là encore, ce serait de l'hypocrisie de leur demander de vivre quelque chose auquel ils n'adhèrent pas. Donc si nous avons des enfants incroyants, en tout cas qui n'ont pas adhéré à la foi chrétienne, c'est normal qu'ils vivent en tant que tels. Que ça nous plaise ou pas, dans le foyer. Certains aspects de la vie chrétienne sont des impératifs, pas d'autres. On peut établir des règles à la maison qu'ils doivent suivre absolument. Sinon, tu fais ton chemin, nous on fait notre chemin. Mais il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas d'obligation, n'est-ce pas? Enfin, l'application variera avec le temps, de l'enfance à la maturité. L'éducation suit des étapes différentes. Par exemple, lorsqu'un enfant est jeune, petit, en bas âge, jusqu'à 6, 7 ans, on commande la volonté de l'enfant. Lorsque l'enfant passe à l'âge adolescent, on influence son enfant. Et lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, on libère son enfant. L'enfant n'est plus sous notre joug, sous notre emprise. On les libère. Il faut bien qu'ils vivent leur vie. Dieu souhaite sauver la famille entière. Et ça, il le dit dans sa parole. Hein. Le livre des Actes en témoigne, par exemple. Dans le cas de Lydie, vous vous rappelez de cette servante, Lydie, nous voyons l'influence d'une femme sur son foyer. Elle a cru et sa famille s'est tournée vers Christ. Actes chapitre 16, versets 14 à 16. La réponse de Paul et Silas au geôlier à Philippe, pareil, peut nous encourager, par exemple. Acte 16, 31. Lorsque le geôlier vient voir Paul et Silas, qu'il lui dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ce verset contient la promesse du désir de Dieu. Lorsque une personne se tourne vers Dieu, par exemple, son influence sera déterminant sur le témoignage qu'il aura vis-à-vis de sa famille. Et je suis sûr que nous tous, nous prions parfois cette prière, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais parfois, ce texte-là, il pose des questions. Et si mon enfant, il ne se tourne pas vers le Seigneur? Comment est-ce que je vois ce texte? Comment est-ce que je considère ce texte? Pour autant, puisque tel est le désir de Dieu, hein, de vivre ou de faire vivre la famille, de gagner la famille, puisque c'est la volonté de Dieu. Mon avis, c'est que nous confions ou que nous nous confions dans la grâce de Dieu pour qu'il sauve nos enfants. Et nous ne pouvons faire que ça. Nous confier dans la grâce de Dieu pour qu'il sauve nos enfants. Rappelez-vous, ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous qui sauvons nos enfants. Nous ne pouvons que les instruire, leur transmettre, les encourager, jamais les forcer. Et s'il y a une raison pour laquelle je tire mon chapeau à mes parents, par exemple, sur 6 enfants, bon, il y a un qui est déjà décédé, sur 5 enfants donc qui restent, bon, les 5 sont chrétiens, mais jamais nos parents nous ont imposé quoi que ce soit ou nous ont forcé à faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas obligé à... Oui, il fallait aller à l'église. Vous me direz, il fallait aller à l'église, bien sûr. Mais leur comportement, leur investissement à l'église nous ont beaucoup, beaucoup influencés. Et je pense que si je suis par la suite devenu moniteur d'école du dimanche, c'est parce que ma mère aussi a été monitrice d'école du dimanche. Il fut un temps. Mon papa était diacre, donc il a beaucoup servi dans l'église. Et moi, ça m'a intéressé, donc j'ai commencé aussi à beaucoup servir dans l'église. Bon, j'y ai passé trop de temps, j'avoue, dans l'église. J'ai sacrifié pas mal de choses dans ma jeunesse pour ça. Mais les parents influencent les enfants, doivent influencer les enfants, doivent influencer les jeunes par nos comportements. Et il ne faut pas que nos discours contreviennent à nos pratiques, à nos façons de faire. Nos parents devront user de sagesse, de douceur aussi, surtout en ce qui concerne les choses spirituelles. Et si nous sommes brutaux avec nos enfants, des paroles dures, sous prétexte qu'il faut qu'ils marchent droit, vous êtes sûr de les perdre. Ou en tout cas, même s'ils vous respectent, mais ils ne marcheront pas dans vos voies, en tout cas pas dans la foi chrétienne. Parce que figurez-vous que le Christ n'a jamais fonctionné comme ça. Douceur, sagesse, on encourage, on invite. Et la grande question qu'il faut se poser finalement, c'est, étant donné que c'est Christ, c'est Dieu qui fait ce travail de conversion, de changement, est-ce que nous labourons suffisamment le terrain? Est-ce que nous préparons suffisamment le terrain auprès de nos enfants? Combien investissons-nous dans ce travail auprès de nos enfants? Préparons-nous le terrain de leur pensée avec sérieux, avec ou dans la prière, dans la consécration? Moi, j'aime bien les discussions avec ma fille. Elle n'a que 13 ans, mais ô combien pertinentes sont ses questions. Parfois, je ne peux pas répondre à toutes les questions qu'elle me pose. Mais j'aime beaucoup discuter avec elle. Lui ouvrir les yeux sur pas mal de choses, lui donner un sens critique de la vie, même de la foi chrétienne. Même de la foi chrétienne. De façon à ce que lorsqu'elle se retrouve à l'extérieur, qu'elle puisse se défendre. qu'elle puisse avoir aussi une foi apologétique. Que si elle s'engage dans cette foi-là, pas si, elle s'y est engagée, elle nous l'a dit depuis très tôt, mais quand l'occasion se présente, mais qu'elle puisse répondre de cette foi devant des personnes. Elle me dit que dans sa classe, il n'y a que des musulmans. Alors, pendant le ramadan, elles étaient que deux dans la classe à ne pas ramadaner. Et des questions se posaient, quoi, sur le ramadan, sur l'islam, et elles se trouvaient en confrontation avec certains, par exemple, les discussions. Donc elles revenaient à la maison avec tout plein de questions sur... sur ces pratiques-là, sur l'islam, auxquelles je devais répondre. Et donc, elle était toute contente d'avoir quelques armes en plus pour aller répondre à ses copains. Oui, il faut que nous soyons affûtés, nous, pour les affûter, eux, pour qu'ils aient ces armes-là, demain, à l'école. Sinon, que deviendront nos enfants ? Alors que Dieu nous aide à vraiment préparer ces terrains. Alors j'ai un dernier mot. J'imagine que bon, vous êtes plusieurs à être beaucoup plus âgés que moi. Vous avez de grands enfants déjà, mariés, qui ont peut-être à leur tour des enfants. Sachez qu'en tant que grands-parents, vous aussi, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos petits-enfants. Vous avez... responsabilité. Et peut-être que les enfants que vous avez élevés, éduqués, peut-être n'ont pas suivi, n'ont pas voulu suivre vos voies, en tout cas la foi chrétienne. Et vous vous posez des questions. Est-ce que ce texte de la Bible, moi et ma maison, reste pertinent? Est-ce que ce texte que Paul répond au geôlier, tu seras sauvé. Quoi, au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille n'était même pas là. Hein. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment ça s'applique à moi, alors que mes enfants, bon, ils ont grandi dans la foi, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils sont dehors. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Sachez que vous pouvez encore prier, les amis. Et rappelez-vous que ce n'est pas vous qui sauvez vos enfants. C'est le Seigneur qui sauve. Prions.